J'ai braillé, j'ai sacré. Genre, je suis toute en sueur, je pue, j'ai du sang partout. Je comprends pas, là. Je faisais juste pousser mon bike. À chaque fois que j'avais une montée, j'étais pas capable de la faire. Il y a comme tellement d'affaires à penser. Tes gears, ton dropper pole. Si tu regardes en avant, faut pas que tu regardes la racine, faut pas que tu regardes la roche. Ouais, épique.
Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest de saison 2, Nature, elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 11, Pascal Lemire, vélo de gravelle, Renfort.
Pas loin d'ici, puis le single track qui commence là. Je disais à Pat que 80% du vélo, c'est l'attitude et de ce que t'as de l'air. Pas grave si t'es pas bon, si t'as l'air cool, là. Right? Mais des fois, je vois du monde sur des trails, puis ils ont des vélos à genre 10 000 piastres, toutes leurs gears, c'est comme, sont fancy, puis là, tu commences à les voir faire du bike, puis c'est comme, mais pourquoi t'as tout ce gear-là?
Il doit être bon.
Il doit être bon, mais non, c'est sur genre le green trail.
Où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis pourquoi t'as voulu nous emmener ici?
Bien, c'est genre la montagne qui est la plus proche du centre-ville, donc tu t'as pas besoin de prendre une voiture pour aller faire du bike, fait que généralement, je ride de chez moi. Puis cette montagne-là, ça représente vraiment bien Grand Forks. C'est comme un peu genre désertique, il y a des petits cactus, une scène différente du reste du BC, je trouve. Là, t'es pas juste comme dans les arbres, genre les conifères, c'est vraiment différent le terrain, puis je trouve que c'est vraiment beau, là.
Parce que le Mont Harpole...
Le Mont Harpole, j'ai jamais appelé ça comme ça. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. J'ai toujours l'appelé comme ça.
La montagne,
non, c'est correct.
Le buton.
C'est quand même 500 mètres.
Ouais.
C'est quand même pas si pire. Ouais.
Non, mais on serait ailleurs qu'au BC, puis ça serait quand même considéré
ouais,
un
clair.
Mont. Là.
C'est clair, je suis d'accord, je suis d'accord.
Intervenante jeunesse dans une école secondaire alternative et propriétaire de sa pâtisserie Pascal's Baked Goods, Pascal Lemire a tronqué sa vie de citadine pour s'établir dans une petite ville au sud de la Colombie-Britannique. Située entre le climat désertique de l'Okanagan et les forêts luxuriantes des Kootenays Ouest, Grand Forks est établie à la confluence des rivières Granby et Kettle et est bordée de paysages à couper le souffle. Passionné de cyclisme en tout genre, Pascal nous emmène aujourd'hui en vélo de gravelle, puis nous fait découvrir sa pâtisserie, et avec son honnêteté désarmante habituelle et son rire contagieux, se dévoile au niveau de sa santé mentale et de ses propres défis. Comment tu te définis, toi?
Énergétique.
Très énergétique?
Très, oui. J'ai toujours de l'énergie, même quand je suis fatiguée. Puis, ouais, je suis un peu fofolle, un peu... je suis toujours prête pour l'aventure, ouais.
Quand est-ce que tu as commencé à faire du vélo, puis comment est-ce que ce sport-là, ou le sport en particulier, a comme changé ta vie?
En fait, j'ai toujours fait du vélo. Mon père et mère, c'est des roadies, fait que c'est dans mes gènes. Quand j'étais plus jeune, genre, je faisais du vélo de ville à Montréal. Classique, là, avec le genre ta bine de lait, là, tu sais, en arrière, là, se trafait avec le tire-up. Mais vélo plus sérieusement, quand j'ai rencontré mon copain, il y a 10 ans, lui, est un avide mountain biker. Puis là, j'ai commencé ça, puis j'étais comme, ah, tu sais, c'est vraiment le fun, ça fait peur. Puis c'est un bon moyen d'avoir de l'adrénaline, puis de changer le mal de place.
Puis pour quelqu'un qui n'est pas familier, disons, avec un vélo de gravelle, comment on compare ça à un vélo de route ou à un vélo de montagne?
Mais c'est comme un mix des deux. Genre, le frame, ça a l'air comme d'un vélo de route, mais la position, c'est peut-être plus comme vélo de montagne. Normalement, ben il n'y a pas vraiment normalement. Quand tu achètes un gravel bike, ça vient avec des roues qui sont plus petites que ça, genre les tires. Moi, j'ai mis genre des 650B, fait que c'est genre plus large, avec plus de crampons, pour faciliter la montée ou la descente là, sur les terrains de terre et de gravelle. Donc moi, je peux vraiment aller descendre des trails de vélo de montagne avec ça. Là. Pas aussi rapide que si j'avais mon vélo de montagne, mais quand même. Là. Ouais. J'ai le vélo de route, j'ai le vélo de gravelle, j'ai... 3 vélos de montagne parce que j'ai un hardtail, j'ai un full suspension, puis j'ai mon premier. Mais mon premier, je veux pas le vendre parce que c'est handmade à Bromont. La compagnie, elle n'existe plus. La compagnie, c'est l'Espresso. Mais c'est quand même cool. Le vélo a été fait genre à la main à Bromont au Québec. Fait que c'est primo, là, c'est vintage. Fait que je veux pas le vendre. Fait que je le garde. Quoi d'autre que j'ai comme j'ai un vélo de route, genre un fixie. Je pense que c'est tout. Je sais pas c'est quoi le compte, mais c'est autour de ça, 7-8 là. Ouais. Ce qui est cool avec ce vélo-ci, puis généralement, les vélos de gravel sont comme ça, c'est que tu peux mettre des sacoches, tu peux mettre des sacs. Fait que tu sais, tu peux faire du vélo camping avec ce vélo-là. Un des prochains projets, là, d'aller aux States, en Arizona, puis aller faire du vélo camping.
Oui, parce qu'ici, à Grand Forks, on est vraiment proche là, des États-Unis.
Oui, vraiment.
On est au sud de la Colombie-Britannique.
Mm-hmm.
Entre deux régions, on pourrait dire, entre la ville de Soyuz et là, on a les Kootenays Ouest aussi. On est encore dans les Kootenays Ouest, mais on est vraiment, on le sent, là, avec la végétation, des serpents à sonnette à Soyuz.
Ici aussi, sur cette montagne-là.
Ah, OK.
Il y a, en fait, on peut pas le voir en ce moment, mais genre, oh oui, le knoll qui est là, la, genre la petite roche là, il y a un rattlesnake den. Puis j'ai un de mes amis, en fait, qui l'a vu. Il y a genre comme 70 serpents à sonnette que tu peux aller voir. J'en ai jamais vu. En fait, c'est pas vrai, j'en ai vu un serpent à sonnette, mais c'était sur la route. Ils sont gros, mais pas sur la montagne. J'en ai jamais vu sur la montagne.
Ouais. C'est une autre réalité.
Genre,
ben nous, on a des grizzlies en ce moment à Nelson.
Ah oui, j'ai vu ça, le vidéo.
Famille
là.
De grizzlies qui se promènent dans les rues de Nelson. Quand est-ce que t'es arrivé dans l'Ouest? Puis qu'est-ce qui t'a emmené ici?
Je suis arrivée décembre 2014. Mon copain, c'est toujours un gars ou une fille, j'ai l'impression. Ouais, ça fait que lui, il vient du BC, puis on s'est rencontrés à Montréal. Il est né à Nelson, mais il y a de la famille ici. On était ensemble, il me dit, hey, tu veux-tu venir faire un trip pendant genre deux semaines, on va aller checker le BC? Puis j'étais comme, OK. Puis j'étais comme, wow, je veux habiter ici. Puis comme une couple de mois après, on a décidé de déménager. Puis là, ça va faire 10 ans, là.
T'as quitté Montréal, puis t'es venu à Grand Forks?
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu un petit moment de transition ou un choc?
Oui, la première année, je braillais beaucoup. Il y avait beaucoup de pleurs. Oui, oui, vraiment beaucoup. J'étais comme, mais what? Puis j'étais arrivée au mois de décembre. Ça, il fait pas tant de soleil. Puis cette année-là, on n'a comme pas eu de neige. Il n'y a vraiment pas neigé. Fait qu'on ne pouvait pas aller à la montagne de ski. Fait que c'était vraiment déprimant. Là, t'as pas d'amis, t'as pas de job. Moi, j'étais sur le EI jusqu'au mois de mai. Fait que là, c'est l'hiver, c'est gris, c'était pas facile. Mais là, j'aime ça. Oui. Je redéménagerai vraiment pas à Montréal. Je vais genre en deux semaines à. Après la première semaine, je suis comme, ah, take me out of here. C'est trop, c'est busy, puis j'aime ça, là, ce montant.
Ouais. Puis là, ben, maintenant, tu as deux jobs. En fait, on te rend compte parce que tu as ta propre pâtisserie.
Ouais.
Et aussi, tu travailles dans une école en tant qu'éducatrice spécialisée.
Quand j'avais 17 ans que je me suis inscrite à l'école, je me suis inscrite en pâtisserie et aussi en travail social. J'ai décidé d'aller en travail social. Donc, tu sais, forcément, j'étais toujours intéressée par la pâtisserie. J'aime vraiment ma job à l'école. J'aime vraiment travailler avec des ados. Mais ma passion profonde, c'est vraiment la pâtisserie. Donc, j'ai ouvert une pâtisserie, là, comme 5-6 ans. Mais ce qui est très cool, c'est que à l'école, je run aussi le programme de cuisine. Puis, ils peuvent vraiment faire comme ce qu'ils veulent. T'sais, on peut faire des macarons français, des guimauves, whatever, ce qu'ils veulent apprendre à faire. Puis, des fois, on utilise même ma cuisine de la BQ avec les kids. Donc, c'est très, très cool. Mon but, c'est d'avoir la BQ à temps plein. Ça, c'est ça mon but à long terme. Donc, c'est ça que je vise, là.
Puis, en ce moment, tu as trouvé un équilibre avec ces deux-là?
Ouais.
Puis avec ta passion vélo?
Ouais, ouais. Genre que je pourrais pas avoir d'enfant en ce moment. Là. J'ai comme pas de temps pour ça. Là. Donc, on espère que ça n'arrive pas anytime soon. Parce que je veux des enfants, mais là, en ce moment, ça marcherait comme juste pas. Fait que j'espère que d'ici les deux prochaines années, là, ça peut se calmer, que je puisse comme focusser juste sur une chose.
Puis est-ce que par rapport aux enfants ou par rapport à la langue française, tu sais, maintenant, t'es vraiment dans un milieu anglophone?
Ouais.
C'est quoi ta réflexion par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont parler en français? Ton conjoint, est-ce qu'il parle en français?
Il comprend genre 98 %. Donc, je peux lui parler en français puis il me parle en anglais. Pourquoi je le fais pas? Lazy, I guess, je sais pas. Oui, si j'ai des enfants avec lui, c'est clair que c'est important pour moi qu'il parle français. Surtout que quand ils vont avoir 5 ans, ils vont être bilingues. Tu sais, c'est tellement facile pour eux.
Ça va être bien plus vite que ça.
Puis, ouais. Probablement, right?
Moi, je l'ai vu arriver en 3 mois des enfants qui parlaient absolument rien en anglais. 3 mois plus tard, partaient des conversations avec des étrangers. J'étais comme, hey, c'est pas moi qui ai appris ces mots-là. Là.
Nice.
C'est ça, la beauté là, d'être en complète immersion dans un endroit. Là.
Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui sont nés au BC, mais qui ont des noms francophones, des noms de famille francophones. Fait que, tu sais, je leur demande c'est quoi leur racine. Puis c'est comme, ah, oh, tu sais, ma grand-mère, elle vient de Montréal ou elle vient du Québec. Je suis comme, oh, mais tu parles pas français? Oh non, tu sais, ils m'ont jamais appris. Puis, tu sais, ils sont vraiment tristes qu'ils n'aient pas appris à parler français. Puis c'est dur d'apprendre une langue quand t'es plus vieux. C'est sûr que si j'ai des enfants, je vais me forcer pour parler français parce que je pense que c'est vraiment important.
J'aimerais ça que tu fasses, tu fermes tes yeux et que tu imagines ta pâtisserie. L'endroit, le local, ça ressemble à quoi? Les sons, les odeurs, c'est quoi votre spécialité? Je veux tout savoir.
Le local, ça ressemble à pas grand-chose, en fait. C'est... Ma shop est genre tellement petite. Là, ça... Ma shop, elle a 450 pieds carrés. Elle a un gros mur qui est turquoise. C'est vraiment cute, là. Le comptoir, il est tout en bois. Il a été fait à la main par mon mari puis son père. C'est vraiment beau. Mais c'est vraiment petit. J'aimerais vraiment ça, avoir une shop qui est plus grosse, que je puisse me cacher, genre, dans la cuisine. Mais ça n'arrive pas. Fait que, dans le fond, où est-ce que je prépare les trucs? C'est juste comme derrière le comptoir. Fait que tout le monde peut me voir, le client. C'est très chaleureux. Ça sent la cannelle. Notre meilleur vendeur, c'est nos brioches. On les tresse, puis on fait comme un genre de petit bun. Puis on les cuit dans un moule à muffin. Fait que tu peux comme toutes les gens les déficeler quand tu les manges. Ah, c'est genre la meilleure affaire de la vie. Là. C'est tellement bon, là. Nos clients sont tellement cute. Les gens sont genre tellement trop contents de venir. Là. Puis ils sont comme, oh, je veux de ça, puis je veux de ça, puis je veux de ça. Puis ils sortent avec une grosse boîte de trucs qui ont comme clairement pas besoin de tout manger. Mais tu sais, comme ils sont comme, j'ai besoin d'essayer de tout. Le truc que j'aime le plus faire, ça serait probablement... des macarons ou des Queen Amann. Pour les gens qui ne connaissent pas les Queen Amann, c'est une pâtisserie bretonne. C'est comme un croissant, mais qui a été laminé avec du sucre. Donc, c'est quand tu le cuis, ça devient vraiment caramélisé. C'est croustillant, puis c'est plein de saveurs de beurre. Puis, ah, oh, c'est tellement bon.
Comment tu te définis?
Wild, ça serait ça mon mot. Je prends beaucoup de risques. Je pense pas souvent, genre, aux conséquences. J'y vais. Puis au pire, ben j'ajusterai. Donc, c'est pour ça que crazy puis wild, c'est définitivement des mots qui me rejoignent. Ouais.
J'adore ça.
Mais tu sais, des fois, c'est pas très bien, là, parce que des fois, les conséquences sont assez négatives. Mais bon, c'est correct que ça fait partie du cheminement. Puis, ouais.
OK. Bon, ben, je vais tout de suite aller à la grosse question. Quelle a été la plus grosse conséquence négative?
Rencontrer quelqu'un, déménager dans un autre continent, puis que te rendre compte qu'au final, c'était quand même un peu fou de, comme, lâcher ta job, lâcher l'école, lâcher ton appart, puis ça marche pas. Mais tu sais, en même temps, OK, c'est négatif, mais bon, je suis juste revenue au Québec, puis recommencer à nouveau, là. J'étais déménagée en France. Pour l'amour, tu sais, quand je te dis crazy puis wild, c'est ça. Moi, je pense pas vraiment. Je suis comme, bah, tu sais, au pire, ça marche pas, mais je reviendrai, tu sais. Mais tu sais, c'est quand même un gros ajustement. C'est comme là, t'as plus de job. J'avais lâché l'école, puis c'était trop tard pour canceller ma session puis être remboursé. Fait que tu sais, dans le fond, ça m'avait coûté. En fait, ça l'a coûté à mes parents, genre 2000$. Tu sais, genre. En tout cas, fait que c'est ça.
Tu peux t'excuser à tes parents, je trouve qu'ils vont écouter l'épisode si ça n'a pas été fait. Là.
Je m'excuse, papa, maman.
OK. Donne-moi un exemple de quand ce trait de personnalité-là a été vraiment genre la meilleure chose qui t'est arrivée.
Ouvrir ma shop. J'ai toujours été passionnée par la cuisine, par la pâtisserie, mais je pensais pas que j'allais ouvrir une bakery aussi rapidement que ça. Genre, je roulais en char, puis... J'ai vu une annonce à louer pour un building, puis j'ai appelé le gars. Le gars, il m'a dit « Ah, je peux venir tout de suite. » Il est venu. J'ai fait comme « OK, c'est cool. Je signe le bail. » En un mois et demi, j'ai ouvert ma shop. Mais ça avait comme pas rapport, là, parce que moi, je me suis dit « Ah, oh, tu sais, je vais ouvrir ma propre shop quand je vais être à la retraite. Quand j'aurai genre 50 quelqu'un ou whatever. » J'espère vraiment que je vais pouvoir prendre ma retraite à 50 quelqu'un. Tu sais... Je pensais vraiment pas que, comme ça, du jour au lendemain, que j'allais ouvrir ma propre shop, mais j'ai eu l'audace de faire ça parce que j'étais un peu comme wild puis un peu folle, c'est bas. Puis je suis comme, bah, tu sais, au pire, si ça marche pas, ben, je perdrai un petit peu d'argent. Puis là, ça fait comme 2 ans et demi que je suis ouverte, puis ça fonctionne bien, puis j'ai des employés. La semaine passée, j'étais même pas là, j'avais des employés qui travaillaient. Tu sais, j'étais comme en vacances. C'est quand même le fun. On était venus en Colombie-Britannique un été. Nous, ça faisait comme même pas 6 mois qu'on était ensemble. Je suis comme, ben ouais, on déménage au BC. Je vais lâcher ma job. J'ai un super de bon job. J'ai un job de cordeau. J'avais pas encore de permis de conduire. Fait que j'étais allée chercher mon permis de conduire. Je me suis acheté mon premier char, 9 manuel. Je savais pas conduire manuel, pantoute. Ça avait comme pas rapport. J'avais un gros trailer. On pouvait pas vraiment aller plus vite que genre 60 d'un côte. On avait même trop d'affaires. J'ai conduit dans le fond de Montréal jusqu'en Compton parce que mon mari avait pas encore son permis de conduire non plus. C'est moi qui ai tout conduit tout seul. C'est quand même une grosse expédition.
Étiez-vous juste vraiment jeune ou vous avez eu vos permis vraiment tard?
On a eu nos permis vraiment tard, ouais. Lui, dans le fond, courait à vélo, toujours sur son bike, il n'a pas eu besoin d'avoir son permis de conduire. Moi, je prenais le transport en commun. Fait que là, maintenant, à 24 ans, t'es comme, OK, il faudrait peut-être que j'aille mon permis de conduire. C'est comme un peu, genre, utile. Surtout si t'habites dans une ville de 4000 habitants, qu'il n'y a pas de transport, puis il n'y a comme rien. Fait que...
Mais là, t'as comme pas répondu exactement pourquoi Grand Forks. Parce okay. que vous auriez pu vous établir n'importe où au BC.
C'est vrai. Moi, je voulais pas tant rester à Grand Forks, je te dirais. Là. Je voulais vraiment bien Nelson, Roslyn, Revelstoke, Golden, pas Grand Forks. Tu sais, il y a que dalle ici. Le ski, tu sais, on a une petite montagne avec un T-bar, c'est pas tant... Et tu sais, c'est vraiment le fun, mais tu sais, c'est pas Whitewater, on s'entend. C'est pas genre Revelstoke. Même chose pour vélo de montagne, il y a des trails, mais c'est pas comme un gros réseau de trails comme à Nelson ou à Revy. Je sais comme, pourquoi qu'on habite ici? Ça a comme pas rapport, là. Mais tu sais, un moment donné, là, de fil en aiguille, là, tu te fais des amis, t'as un job, puis on dirait que... Je pense pas que je déménagerais. Je trouve ça vraiment génial, Grand Forks, c'est petit, pas trop de touristes, je sais pas comment dire ça, genre caché, tu sais. On veut pas trop que les gens découvrent que Grand Forks, dans le fond, c'est vraiment chill, parce que c'est quand même vraiment cool, là. Puis là, on a comme plus de restaurants qui sont ouverts, on a une microbrasserie qui est ouverte, il y a ma bakery. Fait qu'il y a quand même plus de trucs qui sont ouverts, puis c'est plus abordable que... Moi, je pourrais pas m'acheter une maison à Nelson, là, oublie ça, là. J'ai pas les moyens, mais j'ai les moyens de m'acheter une maison à Grand Forks. Je voulais vraiment habiter à Roslyn, puis j'étais là, là, comme une couple de jours. Je faisais genre de la randonnée, puis j'avais vraiment envie d'aller me pitcher dans la rivière. Mais il n'y a pas de rivière à Roslyn. Fait que j'étais comme, ah, tu sais, si j'étais à Grand Forks, il y a deux rivières, là, il y a tellement plein de plages. C'est ça qu'on fait l'été, on fait juste comme, tu fais des barbecues à la plage, puis... Fait que tu sais, tu peux pas avoir tout, là. Grand Forks, c'est quand même, c'est, ouais, c'est vraiment génial. Quand t'es sur la 3, t'as un côté de la montagne qui est vraiment désertique, qui a des serpentinettes, qui a des cactus, c'est super sec. Puis de l'autre côté de l'autoroute, ça, c'est la frontière américaine, puis là, t'as genre des evergreens. C'est vraiment quand même drôle, là. Tu vois genre la vallée, puis des deux côtés, c'est complètement différent écosystème. C'est quand même très cool, là. Il y a aucune raison d'habiter à Grand Forks si tu fais pas de plein air. T'sais, si tu fais pas genre de bike de montagne ou wakeboard, de la randonnée pédestre, il y a pas vraiment aucune raison d'habiter dans le coin, moi, je trouve, là. C'est pour ça que quand les kids sont comme « Ah, oh, tu sais, il n'y a rien à faire à Grand Forks. » En fait, il y a vraiment plein de trucs à faire, mais tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas de centre d'achat. T'sais, les trucs que les kids aiment faire, là, aller chiller en centre d'achat ou espèce de gros skate park, on n'a pas vraiment ça. Fait que tu sais, je peux comprendre. Faire de la rando à 16 ans, c'est peut-être pas le truc le plus cool à faire. Je me rappelle, à 16 ans, j'avais vraiment pas envie de faire ça. Là. Ce que j'aime vraiment ici, c'est exemple hier. Tu sais, je travaille durant le jour. Puis en soirée, je suis comme, ah, oh, j'ai juste envie d'aller me baigner. Bon, on se prend le bike, tu t'en vas à la plage. Tu sais, il est genre comme 6h30, tu bois une bière à la plage. Tu sais, t'as l'impression que c'est comme, t'es en vacances, mais dans le fond, c'est un mardi soir, tu passes 2 heures à la plage, là, pour ça, tu t'en fais le souper. Ah, oh, hier soir, c'est genre une super pleine lune. On va aller genre au pont, on va aller chiller là pendant comme 1 heure à comme 10h30 le soir pour aller voir la pleine lune, tu sais. Tu sais, encore une fois, t'as l'impression d'être en vacances, mais non, c'est un jour de semaine, tout bonnement. Puis, chose que tu fais pas vraiment. En tout cas, moi, je faisais pas ça quand j'habitais dans une ville comme Montréal, tu sais. T'allais les week-ends à des places, mais sinon, en semaine, c'est comme travail, dodo, that's it, right? Fait que ça, j'apprécie vraiment beaucoup. C'est vraiment laid back, puis c'est, tu sais, tu vis vraiment plus comme au jour le jour. T'apprends à apprécier chaque instant. Mon Dieu, c'était bien beau, ce que j'ai dit.
Oh, écoute, j'ai la larme à l'œil. On me voit pas, là, mais... T'as comme deux jobs qui me semblent quand même être assez comme, importantes pour toi.
Oui.
Parle-moi-en un peu plus, puis parle-moi aussi de pourquoi t'as pas comme choisi une des deux versus...
OK, moi, dans le fond, j'étais à l'école en travail social au Cégep du Vieux-Montréal. Je m'étais aussi inscrite à l'ITHQ en pâtisserie. J'ai été acceptée des deux, puis là, j'étais comme « Ah, je suis pas sûre! » Puis là, j'ai décidé de prendre en travail social. Fait que ça doit faire 5 ans que je travaille comme intervenante à l'école. Puis j'aime vraiment ma job, là. J'aime vraiment ça, travailler avec des ados. Tu sais, c'est des ados qui sont tellement poqués. Tu sais, leur famille essaye, mais c'est pas facile. Beaucoup de problèmes de santé mentale, problèmes toxico, pauvreté. Puis j'ai vraiment l'impression que je fais une différence dans leur vie. Puis je trouve que ça, c'est important, tu sais. j'ai toujours été intéressée par la pâtisserie. Fait que je trouve ça difficile de choisir entre les deux, mais je sais qu'éventuellement, il va falloir, parce que je travaille tellement beaucoup. C'est comme pas un rythme de vie qui est soutenable, là, travailler comme ça autant que je fais. Puis aussi, ben, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école l'été, forcément. Donc, je serais sur chômage. Chômage, je comme pas de temps que ça. Fait que, si je vais avoir le rythme de vie que j'ai à rider des bikes, tu sais, j'ai comme plein de bikes. Puis, puis aller en week-end, si là, ben, il faut comme que je travaille l'été un peu aussi. Donc, la bakery, ça fait comme du sens. Mon but à long terme, ce que j'aimerais vraiment, c'est... Ma shop, en ce moment, c'est vraiment petit. Puis, je suis pas au centre-ville. Tu sais, Grand Forks, c'est pas tant gros, mais je suis comme à genre 3 minutes de char de comme du centre-ville. J'aimerais ça éventuellement être au centre-ville. Puis, en ce moment, je suis ouvert 3 jours semaine, donc être ouvert probablement genre 5 jours semaine, puis que ça soit ça à temps plein. Fait nice. Qu'on se croise les doigts que ça fonctionne.
Absolument. Tellement. Où est-ce que tu étais avant d'être à Grand Forks? Qu'est-ce que tu recherchais dans ces endroits-là? Comment ça se compare à ta vie maintenant?
Ouais, c'est ça. Quand j'habitais à Montréal, je faisais juste la fête. Je n'avais pas vraiment de hobby. Je faisais pas de bike. Là, en ce moment, je fais de la peinture, je fais du yoga, je fais plein de trucs comme ça, mais je faisais rien de ça. Ça a comme pas rapport, là. Je me regarde de 10, 11 ans, moi, à Montréal, je suis vraiment pas la même personne. Pas du tout, là.
Ouais. Puis est-ce que t'es capable de... Là, ça va être bien, bien deep, ma question, là.
Mais
c'est okay. Toi qui m'as ouvert la porte, là. Okay. Tu m'as dit, dans le temps, Montréal, j'étais une telle personne, puis là, maintenant, je suis complètement différente. T'arrives-tu à mettre le doigt dessus? Qu'est-ce qui a changé? Ou y a-tu un déclencheur?
Tu sais, quand je t'ai dit, plutôt, tu sais, je suis wild, je suis crazy, j'ai tendance à prendre des risques. Moi, je prenais bien de la drogue quand j'étais plus jeune, tu sais, puis, tu sais, forcément, la dopamine, sérotonine, tu sais, c'est des trucs que j'aime bien, tu sais, dans la vie. Fait que le vélo de montagne, ça me donne ça, ça me donne cette adrénaline-là. Fait que j'ai comme remplacé faire le party par ça. C'est quand même plus santé, là, ce choix-là, que genre la drogue, donc, ouais. Ouais.
Quand est-ce que t'as commencé à faire du vélo?
Oh my gosh, ma première expérience, c'est très drôle. Moi, ça a toujours, ça a probablement toujours été dans mes gènes. Mes parents, ils étaient avides cyclistes de route, puis ils faisaient du vélo camping aussi. Mais tu sais, moi, j'étais toujours comme, ah, vous êtes tellement, genre, laid avec vos vêtements de lycra, tu sais. C'est très drôle parce que j'ai dit à ma meilleure amie quand j'avais genre 20 ans, je suis comme, moi, je porterai jamais ces vêtements-là de vélo, puis je ferai jamais du vélo de route, là, c'est vraiment laid. Ouais. Anyway. Puis, première expérience de vélo de montagne, j'ai braillé, j'ai sacré, je saignais, j'ai pitché mon bike. J'ai l'impression qu'on montait tout le temps, il y avait comme pas de descente, c'est juste de la montée, c'est de la pure montée tout le temps. C'est vraiment dur, il y a des racines partout, là, puis en tout cas, c'était pas une expérience vraiment positive.
Fait que t'as pas eu le coup de foudre dès ta
première. Oh non, c'est de la merde, là. Genre, je comprenais pas pourquoi les gens faisaient ça, je disais, c'est pas le fun, ça fait mal, genre, je suis toute en sueur, je pue, j'ai du sang partout. Je faisais juste pousser mon bike, à chaque fois que j'avais une montée, j'étais pas capable de la faire. C'est surtout que... Il y a comme tellement d'affaires à penser, tes gears, ton dropper pose, si, pis ça, faut que tu regardes en avant, faut pas que tu regardes la racine, faut pas que tu regardes la roche. Ça a pris comme une bonne année, là, avant que je peux dire, ah oh ouais, tu sais, là, moi, j'aime ça, là, le vélo de montagne. Moi, je fais ça, là, du vélo de montagne. Là, je me définis, là. Ouais, ça a pris quand même du temps, là. C'était pas au départ, non.
Wow. Puis aujourd'hui, t'es tellement passionnée, pis t'es la maman d'à peu près 8 bikes.
Ouais, c'est ça, exactement.
T'étais à l'aube du cégep, tu t'es inscrite en travail social puis à l'ITHQ en pâtisserie. T'es allée avec le travail social. Comment t'en es venue finalement à faire de la pâtisserie? Puis t'as-tu une formation? Puis...
Non, j'ai aucune formation. J'ai commencé à travailler quand j'avais comme 14 ans, je pense. Puis tous les jobs à temps partiel, je dirais 80% d'entre elles ont été associées à la nourriture. Je travaillais en restauration, dans des pâtisseries, des trucs comme ça. J'ai été formée dans le fond dans tous ces restaurants-là ou ces pâtisseries-là au cours de ces années-là. Quand j'ai travaillé en France, j'ai travaillé dans un restaurant gastronomique. Il était vraiment short staff, là, c'est pour ça qu'ils m'ont engagé, là, parce que je fitais comme vraiment pas le critère d'embauche. Là. Puis il fallait que je couvre mes tatous, puis ça, c'était très drôle. Mais ils se sont rendus compte que j'étais vraiment bonne, fait que je pense que ça leur dérangeait pas trop. Anyway, fait que là, tu sais, c'était gastronomique. J'ai comme appris en fait vraiment beaucoup de techniques dans cette cuisine-là. Puis c'est assez erreur, là. Je prends comme une journée de congé, que je vais à la pâtisserie, puis que je passe comme toute la journée là, puis j'essaye une recette. Puis je change, genre, si ça marche pas, je change comme une petite affaire. Puis je change une autre petite affaire. Puis là, j'essaye, puis j'écris tous les trucs, puis j'essaye de voir pourquoi ça n'a pas marché pour essayer d'avoir le meilleur résultat.
Puis ouais. Ça, t'appelles ça une journée de congé?
Ouais, j'ai fait ça dans le temps de Noël, parce que dans le fond, j'ai 2 semaines de vacances de l'école à Noël. Puis je ferme ma shop pendant comme une semaine et demie. Fait que là, j'ai décidé d'aller travailler pendant 3 jours pour essayer des recettes. C'était vraiment pas une bonne idée, là. C'était de la merde, là. J'ai tellement travaillé fort, là. Puis au final, j'étais comme, je sais pas si je suis vraiment avancée. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait comme trop de variables. Puis que, en tout cas, ouais. Fait que là, faut genre, comme je recommence le tout, je relise mon petit calepin, puis que, ouais.
C'est quoi ton plus grand défi?
Santé mentale. Dealer avec ma tête. C'est pas facile, la vie, des fois, là. Je veux dire, c'est... Je veux dire, on a tous nos problèmes, puis dealer avec les hauts puis les downs, puis ouais, c'est ça. Faut que je fasse attention, faut que je sois rationnelle des fois. Des fois, j'ai l'impression que j'ai encore comme 17 ans, puis qu'il n'y a pas de conséquences ou que j'ai pas vraiment de responsabilité, mais tu sais, j'ai comme 33 ans, puis une année...
T'as un chat quand même, tu sais, faut...
J'ai quand même un chat, j'ai 2 chats.
Tu dis ça comme c'est rigolo, mais tu sais... Tu as étudié en travail social, je pense que tu connais l'importance de juste d'en parler aussi, là, sans que ça soit dramatique nécessairement. Non, mais t'sais.
À un moment donné dans la vie, je pense que tout le monde peut avoir un problème de santé mentale, que ce soit juste un peu d'anxiété ou une dépression saisonnière. Moi, j'ai une personnalité qui est très addictive et qui aime prendre des risques. Puis des fois, ça m'amène à faire des choses que je devrais pas. Puis je suis quelqu'un d'anxieux. Puis tu sais, aussi dépression saisonnière. Fait que c'est pour ça, le sport, c'est vraiment important. Je suis pas contre les médicaments. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de prendre des médicaments pour être capable de fonctionner. Moi, je veux pas rien de ça. Fait que je m'auto-médicamente en faisant du vélo, puis en étant dehors, en étant dans la nature, puis en mangeant bien, puis une coupe de bière une fois de temps en temps.
Ça serait quoi ta plus grande fierté?
On a dit d'être en vie encore aujourd'hui. Mais probablement, ouais, pour, tu sais, je veux dire, j'ai été quand même assez intense quand j'étais plus jeune. Je me suis mis dans la merde à beaucoup de reprises. Puis c'est quand même impressionnant que je sois encore ici aujourd'hui, que j'ai une business, puis que j'ai quand même assez de succès, puis que je suis encore en vie. C'est un peu dramatique, je sais pas comment je dis ça, mais ouais, ouais. Je pense que, encore une fois, si je retourne à santé mentale, c'est vraiment nécessaire que je soit où est-ce que je suis en ce moment. Je pourrais pas retourner dans une grosse ville, puis je pense que ça serait pas bon. Non, j'y ai trop de tentations, tu sais.
Franc Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebOuest, financée par le gouvernement du Canada et en partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation et animation, c'est moi, Patrick Lac. Productrice principale WebOuest, Micheline Arbé. Chef de contenu WebOuest, Sandra Poirier. Direction AFCO, Lynn Chartier. Réalisation, direction photo et montage vidéo, Jackie Atkins. Prise de son, mixage et médias sociaux, Véronique Trudel. Caméraman, opérateur drone et photographe, Alex Balcé. Traduction et rédaction, BPM Communication. Graphisme, Patrick Lac et Louis Fortier Design. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Thèmes musicaux, The Great Novel et Projet Hertz. Ambiance musicale, Patrick Lac, Charles Robert, John Shakespeare, Hendrik Tremblay et Spyro's Beat. Merci à Nelson Public Library et leur studio communautaire Tech Hub, Kootenai Co-op Radio, Radio Victoria, Jamie Shinkowski, Alexis Roy-Perra, Marcus Dénommé, Marley, Ralph et Béatrix, et Anne-Marie Claveau.
Room Tone, Grand Forks, Pascal Lemire.
Oh.
Non, je pense que t'as mal compris le concept. J'ai pas dit son guttural tibétain, là.